la création d'emplois pour les Canadiens et les Américains dans les mois et les années à venir, et la lutte contre les changements climatiques qui demeure un élément essentiel de notre avenir, mais aussi de notre présent.
Ça, c'était le premier ministre Justin Trudeau, évidemment, et c'est dans le cadre de sa rencontre virtuelle avec Joe Biden, la première entre les deux dirigeants.
Première rencontre virtuelle, un petit peu comme le sommet du G7 qu'on a eu vendredi dernier. Donc, ça avait beau être à distance, écoute, tous les poids lourds à peu près des deux côtés étaient présents, entre guillemets, présents évidemment de chaque côté. On avait le président Biden, sa vice-présidente, à peu près tous les membres les plus importants de leur cabinet, incluant le nouveau secrétaire d'État américain, M. Blinken. Du côté canadien, tu avais M. Trudeau, Mme Freeland, sa numéro 2, une dizaine de ministres canadiens, et on a beaucoup insisté sur la question des changements climatiques, des questions environnementales. C'est pas pour rien qu'on a ouvert avec cette clip-là. C'est parce que c'est là-dessus qu'on a ouvert également les remarques officielles à la fois du côté canadien et du côté américain. C'est pas un hasard. Ces rencontres-là, tu le sais, sont évidemment prévues longtemps en avance et on voit des deux côtés de la frontière là une espèce d'atome crochu, un terrain sur lequel on peut travailler ensemble. Du côté québécois, d'un point de vue québécois, on voit aussi ça de façon positive, c'est-à-dire la nouvelle administration américaine qui arrive, qui est beaucoup plus verte, entre guillemets, que la précédente, évidemment, et on voit ça comme une porte d'entrée potentielle pour les exportateurs canadiens, mais encore une fois, beaucoup québécois dans le secteur de l'énergie renouvelable. Fait qu'il y a ça qui est positif, ce qui est peut-être pas nécessairement négatif, mais qui ajoute, disons, une nuance ou une ombre au portrait, c'est que le gouvernement de M. Trudeau avait aussi beaucoup de demandes pour l'équipe de M. Biden dans le cadre de cette rencontre-là. Donc, justement dans le secteur énergétique, sur les questions énergétiques, le fameux dossier Keystone XL, on demande officiellement à l'administration américaine de reculer, ce qu'assurément elle ne fera pas. On demande également de reculer sur les fameuses clauses Buy American, donc les mesures protectionnistes là, que M. Biden a imposées, dont on s'est parlé à l'émission au tout début de sa présidence. Et la question des fameux vaccins. On veut là aussi de l'aide de Washington pour essayer d'augmenter l'approvisionnement du côté canadien. Là aussi, comme sur les deux autres dossiers, je te dirais que bon, ça serait assez surprenant qu'il y ait un énorme coup de pouce américain. Le dernier dossier dont je veux qu'on se parle ensemble, c'est peut-être le plus gros de tous, là, c'est la Chine. On a demandé encore à l'administration de M. Biden d'obtenir de l'aide pour libérer les fameux deux Michael, là, les deux
prisonniers politiques. Les deux citoyens canadiens qui sont retenus là-bas là, pour dans des mesures de rétorsion contre le Canada.
C'est ça. Et je sais que tu parlais hier avec Guy Saint-Jacques, l'ex-ambassadeur canadien en Chine, à ce sujet-là, parce qu'on sait qu'il y a quoi, il y a à peine quelques heures, la Chambre des communes à Ottawa a voté de façon unanime pour reconnaître officiellement que ce que la dictature chinoise commet contre une partie de sa propre population, c'est un génocide. La raison pour laquelle je te mentionne ça, c'est que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le gouvernement canadien, en faisant ça, ou tout au moins le Parlement canadien, est en train de s'arrimer, en fait, avec la position des Américains, avec la position de Washington, parce que le secrétaire d'État sous Trump, Mike Pompeo, avait déclaré, avant de quitter ses fonctions, que c'était un génocide ce que la Chine faisait. Et ces propos-là, ils ont été répétés très clairement par son successeur, donc le nouveau secrétaire d'État de M. Biden, M. Blinken, dont je te parlais il y a un instant. Et donc, on sent vraiment avoir une espèce d'action, tout au moins de rhétorique concertée Canada-États-Unis par rapport à la Chine. Est-ce que ça va être assez, encore une fois, pour vraiment aider à faire libérer ces deux prisonniers-là? On verra.
On verra, Raphaël, mais ouais. Ce qui est clair, là, c'est que les États-Unis sous Biden, comme les États-Unis traditionnellement avant Trump, croit à la collaboration entre alliés démocratiques.
Oui, absolument.
Donc,
absolument.
On peut peut-être faire un front commun contre la Chine. Puis ça, c'est plus embêtant pour la Chine que quand des pays sont pognés à dealer individuellement avec eux.
Absolument. Et je te dirais que si Biden est capable d'inclure non seulement le Canada, mais les plus importants piliers européens dans ce front commun-là contre la Chine, ça peut peut-être effectivement avoir un impact plus fort que le ton qui était extrêmement agressif que Trump pouvait avoir à l'égard de la Chine, mais qui était très souvent unilatéral. Donc, on peut parler peut-être de façon plus posée, plus calme, mais avoir plus de résultats au final. C'est tout au moins ce qu'on peut espérer.
OK. Et parlant de relations canado-américaines, là, sur une note un peu plus légère, on va avoir une collaboration bien spéciale entre Hillary Clinton et une auteure qui a un lien avec le Québec.
Absolument, une auteure de chez nous, si on veut. Écoute, Hillary Clinton va verser dans la fiction. On sait qu'elle a déjà écrit quelques livres, c'était de la non-fiction. Là, elle prévoit publier à l'automne prochain un roman intitulé State of Terror, donc état de terreur, je te résume le synopsis, l'histoire d'une secrétaire d'État qui travaille pour l'administration d'un rival politique mm-hmm. et qui doit composer avec une série d'attentats terroristes. Je sais pas si ça te semble un peu familier, mais disons qu'elle n'est pas nécessairement allée très très loin pour s'inspirer. Mais où ça devient super intéressant, c'est que parce que c'est sa première tentative de faire de la fiction, c'est pas évident quand même, elle va faire équipe avec une auteure nommée Louise Penny. C'est une auteure mm-hmm. canadienne, d'origine torontoise, mais qui est maintenant basée au Québec.
Exactement. Depuis 10 ans, elle habite à Sutton.
C'est ça. Et elle a écrit une série de romans, en fait, carrément célèbres, la série Armand Gamache, qui sont basés au Québec. Donc, ce sont des romans policiers basés autour de la Sûreté du Québec. L'auteur en question, elle a été décorée de l'Ordre du Québec, de l'Ordre du Canada. Donc, écoute, comme auteur de littérature, c'est l'équivalent d'une superstar canadienne. Fait que c'est fascinant. Et ce qui est également fascinant, c'est que Mme Clinton va pas devenir la première politicienne américaine à faire dans la fiction. En fait, ça sera même pas la première Clinton à le faire.
Son mari en a fait aussi.
Son mari en a fait. Il y a 2 ans, lui aussi s'était associé à un auteur de fiction, James Patterson, et il avait publié, et je te donne le titre du livre, « Le président a disparu ». Donc, évidemment, un petit peu comme son mari, Mme Clinton n'est pas allée très, très loin pour s'inspirer. Et je te laisse sur ceci, je regardais ça aujourd'hui, puis d'habitude, quand les politiciens américains, surtout les présidents, les ex-présidents, publient quelque chose, ce sont des mémoires. Mais il y a des exceptions à ça. Il y a des présidents, des ex-présidents qui sont allés au-delà de ce cadre peut-être plus traditionnel-là. Je te donne 2 exemples. Teddy Roosevelt, qui avait été président au début du 20e siècle, qui avait écrit quelques volumes, en fait, sur ses safaris en Afrique. Et le meilleur des exemples, la plus belle histoire, Jimmy Carter, je sais que tu l'affectionnes particulièrement, là, ex-président, qui a écrit, en fait, il y a quelques années, un livre pour enfants. Le livre en question était basé sur une histoire que lui-même avait inventée et qu'il racontait à sa fille lorsqu'elle était petite. Une fois que Carter a quitté la Maison-Blanche, après sa présidence, donc il a publié l'histoire en livre, et sa fille, qui était rendue adulte, a servi d'illustratrice du livre en question.
Intéressant, donc, mais on s'entend, Raphaël, là, que des collaborations comme ça, comme celle d'Hillary Clinton avec Mme Penny, puis M. Clinton avec un autre romancier, je veux dire... C'est plus pour le marketing, là. Je veux dire, Hillary Clinton n'avait pas se lever le matin puis écrire son 1000 mots par jour, là.
Écoute, si elle le fait, je vais être le premier surpris, je vais te le dire comme ça. Puis, je pense pas qu'il faut nécessairement non plus s'attendre à ce que ça gagne des Pulitzer, là. Je sais que son mari en a pas gagné un il y a 2 ans avec son premier roman. Mais en même temps, tu sais, tu parles de marketing, je pense qu'il faudrait pas non plus se surprendre si ça connaît des ventes extrêmement intéressantes.
Très bien.
Ça sort à l'automne.
On se reparle demain. Merci, Raphaël.
Bye-bye.